Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre rendez-vous pour Cinéphile Insomniaque, la seule émission qui revendique haut et fort poser des questions auxquelles personne n'a de réponse sur un sujet passionnant, le cinéma, et qui aime à se perdre dans les réflexions qu'il suscite chez nous. Bienvenue dans Somniloque, un épisode cette semaine qui va être accolé à l'actualité. Voilà, c'est suffisamment rare pour être signalé, puisque je me doute que la sortie d'un certain film sur une certaine plateforme de streaming a dû pas mal influencer vos votes, puisque vous avez voté, comme toutes les semaines, sur Twitter et Instagram, @Dex et le cinéma pour le sujet que l'on a les traiter dans cet épisode, et c'est le sujet de la Director's Cut qui s'est imposée, mais alors haut la main. Donc je ne doute pas que la sortie imminente du Justice League de Zack Snyder, la fameuse Snyder Cut, ait, on va dire, pesé dans la balance de votre décision, mais bon, évidemment, il n'y a aucun problème avec ça, surtout que ce film incarne quand même une problématique extrêmement intéressante, celle de la Director's Cut donc, qui nous invite à penser la question des versions de films, les différentes versions que peut proposer un metteur en scène d'une même œuvre. Et ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est se demander est-ce que cela est pertinent et qu'est-ce que cela révèle de la place de l'objet film, à qui appartient le film, est-ce qu'il appartient à son metteur en scène, à son producteur ou bien à son spectateur. Mais avant de commencer la réflexion, je vais évidemment adresser un mot de remerciement à ceux qui me soutiennent sur Patreon, celles et ceux qui me soutiennent sur mon compte Patreon. Merci de croire à ce que je fais, merci de continuer à me soutenir, merci de me permettre aussi de mettre de l'argent de côté pour investir dans mes futurs projets. Vraiment, vous êtes super et je suis toujours ravi de vous proposer ce contenu à vous, mais aussi à ceux qui n'ont pas les moyens de faire des dons. Et si jamais vous en ressentez l'envie, eh bien le lien est dans la description. Je disais donc qu'il y avait plein de questions géniales qui se posaient avec la sortie de ce Justice League de Zack Snyder, parce que ce film a une place très particulière dans le monde du cinéma. Alors je précise évidemment que je ne l'ai pas encore vu, et c'est normal puisqu'il n'est toujours pas sorti, en tout cas par nos contrées, ni même aux États-Unis, donc je ne peux même pas le pirater pour vous en parler dans cet épisode, en tout cas à l'heure où j'enregistre ce podcast. Une nouvelle version qui, si l'on en croit les premières critiques américaines qui sont tombées au moment où j'enregistre ce podcast, n'a absolument rien à voir avec la version de Joss Whedon qui est sortie dans les salles. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ce Snyder Cut que nous allons tous visionner, en tout cas moi je sais que je vais le regarder, parce que c'est un petit peu une anomalie dans le paysage de la production cinématographique. Enfin, quand est-ce qu'on a vu la dernière fois un studio accorder 40 millions de dollars? Il me semble que c'est ça le budget qui a été alloué à la production de cette nouvelle version, ce qui est énorme pour la deuxième version d'un film. 40 millions de dollars pour un film qui existe déjà. C'est quand même une décision, on va dire, de production commerciale assez particulière. En tout cas, voilà, je pense que la plupart des producteurs qui ont vu cette décision être prise se sont tous regardés comme ça en disant « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Là, c'est quand même... Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça a un intérêt de dépenser autant d'argent pour proposer une nouvelle version d'un long-métrage qui existe déjà? L'avenir nous le dira. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je considère que ça ne peut pas être pire que la première version de Justice League, puisque c'est un des plus mauvais films que j'ai vu de toute ma vie en salle. Ah oui, je l'affirme haut et fort, moi, le premier Justice League, quand je l'ai vu, la première réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'est « Ce film ne devrait même pas être projeté en salle, parce que de toute évidence, ce film n'est pas fini, et il porte les stigmates d'une production qui n'est pas arrivée à son terme. » C'est-à-dire que vraiment, le film donnait l'impression que c'était pas terminé, donc voilà, qu'il manquait une heure de long-métrage. D'ailleurs, la version que nous propose Snyder va faire 4 heures, donc comme quoi mon intuition de l'époque était en partie vraie. Et surtout, c'était un film qui était ni fait ni à faire, c'était une horreur, mais vraiment, le film savait pas sur quel pied danser. Donc, je ne peux être, on va dire, sinon enjoué que curieux de découvrir la nouvelle version de Snyder, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Une nouvelle version. Parce que Snyder s'est senti, en tout cas a constaté, qu'il avait été totalement dépossédé de sa vision artistique d'origine lorsque le long-métrage de Joss Whedon est sorti. Et cette dépossession l'a poussé à reprendre le contrôle artistique de son œuvre et donc à revendiquer haut et fort au point de mettre son nom dans le titre du film. Il s'appelle le Justice League de Zack Snyder, Zack Snyder's Justice League. Et ça pose quand même une question qui est fort intéressante, en tout cas je trouve, à traiter dans une émission qui parle de cinéma. À qui appartient le film? À qui appartient cet objet extraordinaire, vecteur d'émotion, d'infini et d'histoire qu'on appelle le film? Est-ce qu'il appartient à son metteur en scène? Ou est-ce qu'il appartient aux spectateurs qui l'ont vu? Alors moi, voilà, je suis cinéphile, donc moi ce qui m'intéresse quand je regarde un film, en tout cas ma vision à moi, Clément, de la cinéphilie, ce que je veux voir, c'est voir un metteur en scène s'exprimer. De toute façon, je veux dire, voilà, moi je suis de tout cœur avec Zack Snyder dans cette problématique de la production de Justice League. J'ai hâte de voir la version qu'il va nous proposer, mais Ça pose quand même une question parce que on ne peut pas considérer la version de Justice League de Zack Snyder comme l'alpha et l'oméga de toute la problématique qui entoure la Director's Cut. Puisque la Director's Cut, donc on va juste rappeler vite fait ce que c'est, qu'on soit tous certains qu'on parle de la même chose, la Director's Cut, c'est le montage du réalisateur. C'est une problématique qui se pose parce que dans le droit de la propriété intellectuelle américain, le film n'appartient pas au réalisateur mais appartient au producteur. C'est-à-dire que le réalisateur est un employé, l'employé d'un studio qui l'embauche pour réaliser un produit qu'il va remettre à la production et que le producteur va vendre. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, par exemple, où on peut exiger certaines choses d'un metteur en scène, mais pas de la même façon. Par exemple, pour prendre deux situations équivalentes, on va dire, on projette un film à moitié terminé aux investisseurs. Aux États-Unis, on va lui dire tu refais ça parce que ça nous plaît pas. Le réalisateur, il va dire non. On vire le réalisateur, on prend un autre réalisateur. En France, lorsque vous proposez une version inaboutie, en tout cas pas terminée, d'un film et que les investisseurs, la plupart du temps des Sofica ou des chaînes de télévision, vont vous dire est-ce que tu peux modifier ça? Toi, tu dis non. La chaîne de télé, elle dit t'es sûr que t'as pas envie de le modifier? Toi, tu dis moi non, j'ai pas envie. Et il va dire ok, pas de problème, t'as pas envie. Du coup, je me retire de l'investissement du film et tu n'as pas l'argent pour terminer le long métrage tel que tu le souhaites. Donc c'est pas exactement le même cas de figure, vous voyez? C'est-à-dire qu'en France, vous conservez quoi qu'il en coûte le final cut. C'est vous qui avez le montage fini quand vous êtes metteur en scène. Par contre, vous pouvez avoir plus ou moins d'argent pour mettre à contribution votre vision et la proposer au spectateur, alors qu'aux États-Unis, on va pas se formaliser de ça, c'est pas l'argent qui dégage, c'est le réalisateur. Donc c'est une problématique spécifiquement américaine, la question de la director's cut, mais qui nous invite quand même à penser la question des différentes versions que l'on peut proposer d'un film qui s'est démocratisé, si on regarde l'histoire de l'émergence des director's cut, avec le marché vidéo. Parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant l'apparition du marché vidéo, donc dans les années 90, où on a commencé à proposer différentes versions d'un même long métrage, différents remontages d'un même long métrage, les deux plus connus étant, je pense qu'on va tous se mettre d'accord là-dessus, Blade Runner de Ridley Scott, qui a eu, il me semble, trois versions en tout, la version cinéma, la version Director's Cut qui est sortie dans les années 90 et la version Final Cut qui est sortie dans les années 2010, et Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, qui est un film extrêmement particulier qu'on peut évidemment pas du tout considérer lui non plus comme l'alpha et l'oméga de la Director's Cut, puisque c'est un film qui, quand il a été projeté à Cannes et qu'il a remporté la Palme d'Or, hein, pour rappel, dans les années 70, le film n'était même pas terminé. En gros, Coppola savait même pas dans quel ordre il allait finir de placer les séquences. Et il a eu, merde, je sais même plus combien de versions, je crois qu'on doit être à 4 là maintenant, voire 5. Je vous avoue que j'ai arrêté de compter au bout d'un moment combien ce film avait de versions. Et toutes ces versions, d'ailleurs, elles sont vues, elles sont regardées par les cinéphiles et elles sont débattues pour savoir quelle est la meilleure, quelle est celle qui propose la version la plus intéressante du film. Et cette question-là, cette question que l'on se pose en tant que cinéphile lorsqu'on regarde des director's cut ou des remontages de films, de se dire quelle version de ce film je préfère, eh ben elle sous-tend quand même quelque chose quand on pose la question. C'est qu'il existe un film au-delà des versions que l'on propose de lui. Vous entendez ou pas, quand on pose la question quelle version de ce film tu préfères, ça veut dire qu'il y a un film, il y a un objet film qui existe indépendamment des différentes versions que vous regardez. Et le fait de le remonter, de le réagencer, la plupart du temps, en tout cas moi c'est le constat que je peux faire, la Director's Cut n'impose pas un nouveau film. Elle impose une nouvelle version du film. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors, est-ce qu'on va se perdre là tout de suite dans un questionnement philosophique extrêmement profond sur le fait que l'œuvre n'appartient pas à son metteur en scène, mais qu'en fait l'œuvre a une identité propre, a une essence propre, qui finalement presque préexiste au travail du metteur en scène, et au travail du scénariste d'ailleurs? Peut-être. Peut-être que c'est dans ce genre de réflexion que l'on va se perdre maintenant, après avoir fait le cours de droit de la propriété intellectuelle. Maintenant, on va partir dans la philosophie de l'art. Vous me connaissez, vous savez très bien que c'est ce qui va se passer. Mais avant de se lancer dans ce type de réflexion, il nous faut quand même souligner, puisqu'on s'en voudrait de pas le faire, que la problématique de la Director's Cut, on peut se dire « Ah, oh, super! C'est génial parce que ça permet aux artistes de vraiment pouvoir s'exprimer. » Non, 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 c'est une problématique commerciale. La Director's Cut, ça permet d'exploiter deux fois le même film. Et d'ailleurs, ça, l'idée que ce soit apparu sur le marché vidéo, c'est bien que voilà, on avait un truc à vendre, et que donc on allait vendre plusieurs versions du même film. Donc au pire, si jamais il y avait des collectionneurs cinéphiles, comme je fais partie, qui ont plusieurs versions des mêmes films, bah, ils allaient acheter plusieurs DVD différents. Les cons! Et du coup, on allait pouvoir leur vendre quatre fois la même chose, et donc gagner quatre fois plus d'argent. Nous sommes des moutons, notre amour du cinéma nous rend totalement soumis au capitalisme mondialisé. Mais le fait est que ça pose quand même une question, et que même dans la plus profonde trivialité commerciale qu'est le geste de proposer une director's cut, le plus souvent, pour des résultats, on va dire, assez quelconques. Car moi, je me souviens, par exemple, d'avoir vu la Director's Cut de Amadeus de Milos Forman. Je vais pas vous mentir, regardez la version cinéma. Hein, vraiment, c'est mon conseil là que je vous donne dans cet épisode. Regardez la version cinéma, ça n'a absolument aucun intérêt de regarder la version Director's Cut de Amadeus. Alors, ça a un intérêt parce que vous avez 20 minutes de film en plus, mais ces 20 minutes de film en plus ne changent absolument pas la teneur artistique générale du long métrage que vous avez déjà vu. Et on le regarde plus par curiosité. C'est-à-dire qu'on se dit, ah tiens, c'est rigolo, il n'y avait pas cette scène dans le montage cinéma, mais en dehors de ça, en dehors de la curiosité, l'idée que cette nouvelle version change complètement le rapport que moi, spectateur, j'entretiens à l'œuvre Amadeus, non. Je veux dire, concrètement, pas du tout. Et d'ailleurs, j'y reviens, la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Et malgré mon amour du cinéma, malgré ma défense des metteurs en scène, je suis obligé, forcé, devant vous là, de constater, d'admettre, je vais enfin vous dire la vérité, je suis assez dubitatif sur l'idée de proposer différentes versions d'un même film. La première fois où ça m'a vraiment posé question, c'est lorsque j'ai vu la version noir et blanc de Parasite, de Bong Joon-ho, qui n'est pas à proprement parler une director's cut, je suis d'accord avec vous, mais qui revient quand même à cette idée qu'il y a un film que l'on propose dans plusieurs versions. Voyant cette édition noir et blanc du film, je me suis vraiment posé une question, c'est ok, il m'a proposé une version couleur que j'avais vue donc, et une version noir et blanc que je découvre maintenant. Quelle est la vraie version du film? C'est-à-dire que moi, spectateur, qui veux voir Parasite, je dois regarder quelle version? Est-ce que je dois regarder la version couleur ou la version noir et blanc? Quelle est la version que Bong Joon-ho me propose véritablement? Surtout que Bong Joon-ho, vu le demi-dieu au box-office que c'est en Corée, je pense que les producteurs le font pas trop chier, tu vois, sur ce qu'il a à dire dans ses films. Donc moi, voyant ces deux versions, qu'est-ce que je dois regarder? Quelle est la version que... C'est quoi le film, en fait? C'est la version noir et blanc? C'est la version couleur? C'est les deux? C'est-à-dire qu'il faudrait que je regarde deux fois le même film pour avoir vu Parasite en entier. Pareil pour, par exemple, Mad Max Fury Road, qui a aussi été exploité avec une version en noir et blanc. Est-ce que je dois voir la version noir et blanc ou la version couleur? C'est quoi le film, en fait? Et c'est là, pour moi, où vous voyez, on commence à toucher presque à l'absurdité de la version du réalisateur, parce qu'en fait, la réponse, c'est les deux. La réponse, c'est vous regardez la version que vous voulez. Quand on prend le découpage de Amadeus, par exemple, pour revenir sur ce film-là, quand on regarde la version cinéma, on regarde un film de Milos Forman. Quand on regarde la Director's Cut, on regarde aussi un film de Milos Forman. Pareil, pour revenir sur Apocalypse Now, moi, le premier Apocalypse Now que j'ai vu, c'est la version cinéma à l'origine, et puis après, j'ai vu la Redux, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, j'avais déjà vu Apocalypse Now. C'était pas le même montage, évidemment, ce n'était pas la même version, mais j'avais déjà vu le film. Et c'est là où on en revient, et où cette question qui, personnellement, en tout cas, m'obsède beaucoup, la question de l'objet film, du film en tant qu'entité qui dépasse le spectateur, qui dépasse le metteur en scène, qui presque préexiste indépendamment de tous nos regards que l'on peut se poser dessus. Quand j'ai vu les différentes versions d'Apocalypse Now, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà vu Apocalypse Now. Et que ce que j'étais en train de regarder, ce n'était pas un nouveau film, mais une autre version de ce film. Et la problématique que pose la Director's Cut, au-delà de la question de, comment dire, de la place du metteur en scène dans la production hollywoodienne, qui serait une question, on va dire, presque strictement économique, en fait, la question du statut de l'artisan par rapport au producteur, au-delà de cette question très spécifique, qui finalement n'est un petit peu que du droit du travail, hein, en fait, je ne trouve pas que la Director's Cut soit un sujet fondamentalement passionnant à analyser, parce que la plupart du temps, ce n'est pas une nouvelle œuvre que j'ai devant les yeux. C'est une nouvelle version. Et plusieurs versions d'une œuvre, la plupart du temps, ne viennent pas changer le cœur de celle-ci. Alors ce serait une problématique gigantesque qu'il nous faudrait traiter maintenant. Quand je parle du cœur de l'œuvre, quand je dis qu'en voyant plusieurs versions d'Apocalypse Now, je n'ai pas eu l'impression de redécouvrir Apocalypse Now, même moi, en vous le disant, je ne sais pas exactement de quoi je parle. Je ne sais pas exactement si c'est mon ressenti qui n'a pas évolué, si c'est les images que le film m'ont laissées qui n'ont pas évolué, mais le fait est que le film existe au-delà des différentes versions que l'on peut voir de lui. Et c'est en ça que pour moi, défendre la Director's Cut, ce n'est pas nécessairement défendre l'art, mais c'est plutôt se complaire dans une pratique, j'ai pas envie de dire strictement commerciale, même si, bon, la question de l'exploitation des différentes versions d'un film, parce que quand même, on se fout pas mal de notre gueule hein, sur la question de la commercialisation, mais il y a un peu de ça quand même. La Director's Cut, le plus souvent, n'apporte finalement pas grand-chose. Et je crois que la puissance d'un film réside au-delà de simplement est-ce qu'il manque une scène ou est-ce qu'il manque pas une scène. Je n'ai vraiment, là, en vous parlant, aucun souvenir d'un long métrage où, l'ayant vu, je me suis dit, là, ça valait le coup de regarder la Director's Cut parce que c'est vrai que le film que je vois est totalement, totalement différent. J'ai l'impression de ne pas avoir réellement vu le film en le voyant dans une autre version. Peut-être que c'est votre cas, et les commentaires sont là pour ça, et d'ailleurs j'ai conscience que la vision que je donne de la Director's Cut ne doit pas être partagée par beaucoup de monde, parce que quand je vois la joie que procure cette Snyder Cut de Justice League, je suis assez fasciné par les retours que ce film suscite avant même qu'il soit sorti. Il y a quelque chose de beau aussi de voir que l'on fait confiance à ce point-là à un artiste, mais moi je n'arrive pas à regarder cette proposition comme autre chose qu'une sorte de de proposition strictement commerciale qui est que, regardez, on va faire une autre version d'un même long métrage. Si vraiment Joss Whedon, en faisant son Justice League, a sali à ce point l'idée d'origine et l'âme d'origine du film, il faut qu'il arrête définitivement de faire des longs métrages, parce que là vraiment ce que j'ai vu c'est une immondice absolue, mais personnellement lorsque j'ai vu le premier Justice League, j'ai vu un film qui ne tenait pas debout, et je ne suis pas sûr que ce soit exclusivement la faute de son metteur en scène. J'ai surtout l'impression de voir un film dont l'âme ne me parlait pas. Parce que le film que l'on se fait, nous, dans notre tête, la façon que l'on a de réagir aux images, la façon dont notre esprit recrée le film en le découvrant, c'est aussi fort que l'agencement des images que le metteur en scène nous propose. Et est-ce que vraiment cette magie peut être totalement différente pour une simple question de montage ? Bah écoutez, si le Justice League de Zack Snyder nous le prouve, j'ai hâte de voir ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la question de la Director's Cut. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que même si vous n'êtes pas d'accord, ça a suscité des réflexions chez vous. C'était un épisode un petit peu particulier, parce que ce que j'ai essayé de partager comme point de vue, c'est que c'est une problématique qui finalement n'en est pas une. Il y a quelque chose de... Pour moi, on glose beaucoup trop sur la question de la Director's Cut, et en fait, ça ne nous permet pas vraiment de penser le cinéma dans son ensemble. Et voilà, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que je vous ai donné des arguments pour nourrir le fait que c'est vous qui ayez raison et pas moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Je vous souhaite de beaux rêves si vous l'écoutez avant de dormir. Et je vous souhaite une belle journée si vous l'écoutez en allant au boulot. Salut tout le monde.